politique.
Oui, il y aura congestion encore plus importante. C'est certain. Présentement, dans le secteur de la 40 et de la 15, c'est extrêmement difficile. Si le même matin, on a un projet comme celui-là, il faut être capable de... Moi, je veux réduire le temps dans l'auto. Le ministère des Transports devra travailler conjointement. Ma collègue Chantal Rouleau devra travailler avec les intervenants, avec la ville. Nous, on est prêts à s'asseoir et trouver des pistes de solutions. Maintenant, il y a un coût relié à tout ça aussi.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ben, c'était François Bonnardel, hein, le ministre québécois des Transports. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour à vous deux.
Salut Bernard. Salut.
Paul, prends le relais, là. Visiblement, Royal Mount, ça va pas bien. Moi, j'ai pas entendu la mairesse. Elle me semble assez optimiste sur sa capacité à trouver rapidement des solutions à des problèmes extrêmement complexes. J'ai de la misère à me convaincre, moi, que dans 6 mois, le projet va être à ce point modifié qu'il va être, devenu acceptable, notamment sur le plan de la congestion.
Ben, écoute, c'est plate, mais on pense la même chose, Bernard. Moi aussi, Valérie Plante, la mairesse, elle veut pas non plus monter au front et dire « je suis contre le projet » avant même qu'on ait su s'il y avait des modifications qui étaient possibles. Donc, il y a une certaine posture politique, mais c'est très, très clair qu'elle n'est pas enthousiasmée par le projet. Puis écoute, elle a dit « la balle est dans le camp du promoteur ». S'ils sont capables de rendre le projet plus acceptable, en fait, acceptable tout court. Je vais les écouter, mais vraiment,
temps, c'est
très peu d'enthousiasme.
Oui, puis tu as vu que c'est, quand j'ai posé la question, ouais, mais c'est quoi les moyens que vous avez pour intervenir? Là, me parler du règlement de zonage sur lequel, si je comprends bien, la CMM a l'autorité. Mais j'ai surtout senti, je ne sais pas si tu as senti la même chose que moi, que si jamais c'est pas acceptable dans 6 mois, c'est vers Québec qu'elle va se tourner. C'est à Québec qu'elle va demander d'intervenir.
Ouais. Deux choses là-dessus. Premièrement, rappelle-toi, le rapport dit qu'il recommande aux élus de prendre tous les outils légaux requis pour imposer la suspension du projet dans sa forme actuelle. Donc, il y a plein d'outils. Mais en effet, elle aimerait ça que Québec intervienne. Et tu as vu la réponse de François Bonnardel. On l'a entendu tantôt. Ce qui est clair, c'est que c'est pas clair et c'était voulu que ce soit pas clair, je crois. lui aussi, il ne veut pas perdre capital politique en défendant le projet. Il ne veut pas non plus tout de suite monter au front.
Mais c'est
lui,
parce
qu'il veut laisser le municipal se positionner. Ben... Puis quand il va voir que les élus sont d'accord ensemble, ben là, il va les appuyer, mais ils ne veulent pas prendre le leadership et être les premiers à se compromettre là-dessus.
Il y a deux choses. Tu sais, on a une expression en politique. Tu ne veux pas prendre le singe puis le mettre sur ton épaule. Bonnardel, il ne veut pas prendre le singe, c'est-à-dire prendre le problème puis le mettre sur son épaule, parce que s'il fait ça maintenant, c'est lui qui éventuellement va être pris avec la patate chaude. Alors, il veut laisser ça dans le cours des élus municipaux, leur laisser régler ça. Et par ailleurs, et chez Bonnardel et chez Valérie Plante, je pense qu'ils ne veulent pas avoir l'air non plus d'être anti-développement économique.
Oui, surtout Valérie Plante, parce qu'elle est accusée de ça quand même par ses détracteurs.
Mais en même temps, il n'y a personne qui a un poids politique important qui pousse pour ce projet-là. Fait que ces gens-là, Bonnardel, Valérie Plante, peuvent mettre les pieds sur le frein un petit peu sans que ça paraisse trop, parce qu'il y a personne qui pousse dans l'autre sens. Il y a personne à part les promoteurs qui pousse dans l'autre sens. Et donc, au niveau politique, il y a pas de chicane en tant que telle là, avec des gros joueurs.
Il y a deux personnes qui poussent contre, puis ça va intéresser Carl. Il y a deux maires d'arrondissement qui ont exprimé leur dissidence. Robert Coutu de Montréal-Est. Ça te dit quelque chose, hein, Carl en parlait?
Ben oui.
Carl?
Candidat du Parti conservateur.
Le prochain conservateur dans la Pointe-de-l'Île.
Ben oui, il va être candidat pour Andrew Scheer aux prochaines élections fédérales.
Et le maire aussi de l'Art-des-Ormeaux, ça je comprends pas trop, parce que les gens de l'Art-des-Ormeaux vont être victimes du trafic, comme toutes les autres personnes qui vont avoir la mauvaise idée de s'aventurer dans ce coin-là, véhicule motorisé.
Ils défendent l'autonomie municipale, en tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Ouais.
J'ai un auditeur qui, je trouve, résume bien, Mathieu, il dit « Je comprends pas pourquoi on ajoute un méga projet dans un endroit où c'est déjà le bordel 7-7. Pourquoi on règle pas le trafic avant d'ajouter une méga infrastructure? » Je pense qu'il reflète pas mal l'opinion du citoyen moyen, moi, là.
Ben moi je m'identifie au citoyen moyen, parce que moi je suis bien d'accord avec Mathieu.
Bon, mais c'est bon ça. On va parler un petit peu de la Chine, mon cher Carl.
Ben oui.
Parce que l'ambassadeur canadien en Chine, qui avait ni plus ni moins que pris la défense de Mme Huawei, là. La Chinoise arrêtée par le Canada, processus d'extradition vers les États-Unis. Ben là, après avoir déclaré, là, il s'excuse.
il s'excuse. Il a émis un communiqué hier en fin d'après-midi. Puis écoute, il est vraiment désolé que ses propos aient semé la confusion. Il s'est mal exprimé, comprends-tu? Ces propos-là ne reflétaient pas fidèlement sa position sur la question. Il a parlé pendant 40 minutes. Il a répondu en détail sur les raisons de ne pas extrader Meg Wenzhou. Puis tout d'un coup, deux jours plus tard, ça reflète pas sa position, il s'est mal exprimé. Écoute, c'est prendre le monde pour des valises.
Mais alors, dis-moi, là, avec toute l'expérience que tu as de la politique fédérale, là, puis de la stratégie politique, McCallum, quand il fait sa déclaration, là, on s'entend, là, pour qu'il en parle en long et en large comme il le fait, il sait ce qu'il arrive avec un son allocution est écrite dans sa tête. Sa position est structurée, là. Il a pas lâché ça sur une fin de phrase dans un scrum. Fait que son objectif, c'est quoi quand il déclare ça? C'est quoi son objectif?
Ben, son objectif, c'est soit d'envoyer des signaux du côté de la Chine en disant « Écoutez, on comprend, on fait juste suivre les procédures légales, mais inquiétez-vous pas, d'une part. » D'autre part, on tente de calmer le jeu avec les Canadiens d'origine chinoise qui suivent ça et trouvent que le gouvernement ne gère pas ça comme il faut, là, tout le dossier de Meng Wenzhou et de Huawei. Mm-hmm. Alors, si c'était une commande politique, et là, on sentait la soupe chaude parce que c'est sorti dans les médias nationaux, hein, parce qu'évidemment, rappelle-toi, la conférence de presse en question de John McCallum, c'était devant les médias de langue chinoise. Donc, peut-être qu'on s'attendait pas à ce que ça sorte, mais c'est sorti.
Ah, ben ça, c'est important, ça. Ouais,
oui, okay. On n'avait pas invité les médias anglophones, on n'avait pas invité les médias francophones, c'était les médias de langue chinoise qui étaient invités à cette conférence de presse-là.
Ah, oh, ben c'est ça, là.
Il y a deux interprétations par rapport à ça ce matin. Il y a Lawrence Cannon et Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur en Chine, qui était interviewé par les médias. Monsieur Saint-Jacques disait que c'était très maladroit, tandis que Lawrence Cannon, politicien conservateur et aussi diplomate de métier, lui trouvait ça quand même d'une certaine habileté. Il comprenait ce que voulait faire M. McCallum.
Et si on prend la thèse de M. Saint-Jean qui dit que c'est de l'incompétence, finalement.
Oui, c'est ça
de l'incompétence grave. Et là, moi, je veux dire, si je suis les familles des Canadiens qui sont pris là-bas, il y en a un qui fait face à la peine de mort là depuis cette crise-là, je suis pas très rassuré, même pas par les excuses de M. McCallum hier.
C'est un autre bon point, cela là. Imagine-toi une sortie des familles, là. Des familles qui viennent justement taxer leur propre gouvernement d'incompétence dans ce dossier-là. Tu t'imagines la politique, notamment, que les conservateurs pourraient faire avec ça, là?
Et c'est absolument, c'est épouvantable. Puis écoute, on est rendu où le plan A du gouvernement présentement, là, c'est que le juge qui sera chargé de l'affaire, que le tribunal juge la preuve insuffisante et dise on ne peut pas extrader Mme Meng Wenzhou.
Est-ce que ça. Ouais. J'allais dire, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à dire on la relâche?
Ben, le juge pourrait dire que la preuve est insuffisante, absolument. Le problème, c'est que si la preuve est suffisante, ça se ramasse au niveau politique, rappelle-toi. Ça se ramasse dans les mains de David Lametti, le nouveau ministre de la Justice, qui, lui, devrait prendre la décision finale. C'est 100% politique, en bout de ligne, si le juge dit « oui, la preuve est suffisante, on doit incarcérer et procéder à l'extradition ».
Moi, je sais pas, je suis pas dans la tête de Justin Trudeau, là. Mais il me semble, si t'es Justin Trudeau, là, si tu pouvais te débarrasser de cette affaire-là avant les élections, enfin pas mal même avant, là, mais tu sais, le plus rapidement possible, là. Mais faut surtout pas que ça se rende jusqu'à l'automne prochain, parce que ça peut, avec tous les recours en appel, et en appel, on pourrait patauger encore là-dedans l'automne prochain. Mais en tout cas, on verra bien. Paul, je retourne à toi, parce que deux petits sujets courts. D'abord, Québec a décidé de renoncer à dévoiler le nom, l'identité des médecins qui ont surfacturé.
Oui, c'est un engagement qui avait été pris parce qu'il y a des médecins qui surfacturent, parfois accidentellement par une mauvaise compréhension des règles, ou d'autres fois, c'est vraiment une infraction sérieuse. Les tarifs varient. Des fois, on parle de 15-20 piastres de trop. Et le cas le plus extrême, je pense que il y a un médecin pour qui c'était 600 000 $ facturant trop et un autre où ça dépassait 1 million de $. Donc, l'intention...
Es-tu d'accord avec ça, toi? Parce que moi, je
dois dire... Il y a des arguments pour ou contre, je les explique, je suis un peu partagé. D'une part, ce que les médecins disent, c'est... Écoutez, il y a d'autres personnes qui se font pincer par Revenu Québec, là, puis on ne fait pas une espèce de liste noire publique. Ça, c'est leur premier argument. Le deuxième, c'est que si on dévoile tous les noms en mêlant ceux qui ont vraiment été pas corrects, dont je te parlais, genre 100 000 $ puis tu peux pas prêter... Tu peux pas présumer là, l'espèce d'erreur de bonne foi. Puis si tu es confond dans la même liste, avec ceux qui ont facturé 20 piastres de trop, ben là, il y a un problème. Mais par contre, on peut aussi dire que les médecins, c'est des gens qui sont payés par l'État. On connaît la sensibilité de leur rémunération. Ils sont partis avec la caisse dans les dernières négos. Est-ce qu'on utilise ça comme espèce de moyen de pression? Écoute, il y a des arguments des deux à côté.
Oui. L'autre affaire, Paul, c'est que souvent les médecins ne s'occupent pas eux-mêmes de leur rémunération. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Là. Alors, c'est sûr que, alors tu peux dire, le médecin est responsable de celui ou de celle qui est engagé pour s'occuper de sa facturation, donc son nom devrait être publié quand même. Là. Mais tu pourrais dire, l'attaque à sa réputation est démesurée par rapport à la faute commise dans certains cas, si c'est effectivement, dans certains cas, une erreur de bonne foi.
Ouais, okay? Mais tu peux aussi ne pas mettre le nom, puis juste pour avoir l'information pour l'intérêt public, là, savoir quel nombre de médecins a facturé quelle somme en trop.
Mais ça, on l'a pas, ça?
Ben oui, c'est vers ça qu'on va, là.
C'est ça, hein? Je pense qu'on va savoir combien il y en a qui ont surfacturé puis quel montant, mais on n'aura pas l'identité des responsables, entre guillemets.
C'est ce qu'on espère.
Faudrait au moins avoir ça. Je suis d'accord avec toi, faudrait au moins avoir ça. L'autre sujet, vas-y, Carl, excuse.
Je suis assez sensible à l'argument de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Là, quand il y a une erreur de quelques virgules là, ici et là, puis que ça donne un petit montant ou que c'est de bonne foi, c'est une chose. Quand c'est une fraude systématique, il y a d'autres moyens, dont les recours judiciaires. On peut aller au criminel là, s'il y a de la fraude.
Tu as raison. Tu as raison. Si on est capable de prouver que c'était de la fraude, intentionnelle, là, calculée, prévue, planifiée.
Systématique.
Ouais, systématique. Bah, c'est ça. L'autre petit sujet, en 1:30, mon cher Journet, le recours collectif contre la hausse des frais de garde sous les libéraux. Ça, c'est des parents, c'est ça?
Oui, parents en colère, écoutez-nous. Vous vous souvenez sûrement encore mieux que moi de ce qui s'est passé sous le gouvernement Couillard. Contrairement à ce qui avait été promis en campagne électorale, on a modulé les tarifs de garderie. Pour certains, ça s'est traduit par une facture salée. Là, il y a des parents qui allèguent qu'avant l'élection du gouvernement Couillard, ils avaient signé des contrats et que ça aurait été une espèce de modification injustifiée de contrat. Et donc, ils intentent un recours collectif. Par contre, ce qui se passe en parallèle à Québec, sur la scène politique, ben c'est que tu as un nouveau gouvernement, le gouvernement caquiste, qui s'est engagé à revoir ça. Je ne sais pas quel sera l'impact sur le recours collectif, puisque ça ne change pas le passé. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais pour les parents qui nous écoutent, c'est quand même bon de se souvenir que cette décision-là, qui avait été peut-être une des plus controversées et mal avisées du gouvernement Couillard, si la CAQ est à la hauteur de sa parole, ben on devrait passer à une autre étape.
Mais on sentait que pour certaines familles, ça a été des gros montants d'argent là, qu'il a fallu payer.
Des mauvaises surprises à la fin de l'année.
Déclaration.
La grosse décision pour le gouvernement de la CAQ, c'est est-ce qu'on va vraiment se battre contre ce recours collectif-là ou essayer d'arriver à une entente?
Parce que
sinon, tu défends la position du gouvernement du Québec qui est celle qui était mise en place par Philippe Couillard.
Par Couillard, voilà. Carl Bélanger, je te remercie. Je te souhaite un bon week-end. Paul Journet, à toi aussi.
Merci.
On se reparle lundi. On s'arrête et au retour, on aura Denis Galland.